kaže.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique depuis Grenoble où se tient la 10e édition du Festival de Géopolitique avec les États-Unis comme thème central. Regard sur la présidence Trump et la volonté du chef de la Maison-Blanche de restaurer la crédibilité de la puissance américaine dans un monde concurrentiel où les rivalités géopolitiques prennent le pas sur les opportunités de coopération. Nos invités, Laurence Nardon, chercheur, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Laurence Nardon, qui est l'auteur d'un article paru dans la revue Études sous le titre « La sombre vision de Trump ». Bonjour.
Bonjour.
Pierre Conessa, spécialiste des questions stratégiques internationales et en particulier militaires, auteur de plusieurs ouvrages, dont le prochain à paraître en mai, Hollywood, arme de propagande massive, chez Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour.
Et Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales, auteur de nombreux ouvrages, dont Nous ne sommes plus seuls au monde, aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Durant la période de près de deux décennies, depuis l'effondrement du bloc soviétique en 1991 à la crise de 2008, période qualifiée de moment américain, les États-Unis ont donné l'impression d'incarner une ligne d'horizon géopolitique indépassable. La situation a changé et certains observateurs décrivent la présidence Trump comme la plus claire expression de l'érosion de la domination globale des États-Unis. Un commentaire, chacun qui souhaite commencer. Laurence Nardon.
Oui, vous faites, dans ce que vous avez dit, vous achevez ce moment américain à la crise de 2007-2008. Il y avait évidemment eu déjà le 11 septembre qui était un challenge, un défi extrêmement violent à cette puissance américaine. Mais d'une manière générale, la réflexion sur le déclin des États-Unis date quasiment de l'avènement de la puissance américaine. C'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le complexe du premier de la classe. C'est-à-dire que dès qu'ils se sont considérés comme les leaders du monde libre, ils n'ont eu de cesse de s'affirmer, créant par là même une angoisse sur ce statut. C'est-à-dire que le débat sur le déclin américain, il naît pendant la campagne de Kennedy avec les craintes d'un missile gap, d'un écart de puissance militaire avec l'Union soviétique à l'époque. Et finalement, ce débat n'a cessé de refaire surface. Et finalement, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de savoir si l'heure du déclin est réellement arrivée ou pas. Et effectivement, il y a peut-être des signes plus concrets que dans les interrogations des décennies précédentes.
Et quel degré de déclin également? Est-ce un déclin relatif? Est-ce un déclin profond? Bertrand Badi.
Oui, moi je dirais davantage un déclin de la puissance qu'un déclin de la puissance américaine. C'est-à-dire que les États-Unis ont été confrontés dans leur histoire contemporaine et surtout post-bipolaire à une transformation énorme du système international qu'on ne veut surtout pas voir, qu'on ne veut surtout pas regarder, circuler, il n'y a rien à voir. Le système international s'est profondément transformé. Essayons de mesurer l'écart entre la genèse de ce qu'en sciences politiques on appelait le power politics, c'est-à-dire des relations internationales uniquement pensées en termes de puissance. Les États-Unis venaient d'écraser le monstre nazi, donc la puissance, elle était évidente, puis elle était bonne, elle était sympathique, elle était valorisée. À l'époque, il y avait 51 États qui étaient membres des Nations Unies. Deux tiers de l'humanité n'avaient pas voix au chapitre puisqu'ils étaient encore sous domination coloniale. La communication était encore celle d'arrière-grand-papa. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les deux tiers de l'humanité punie ont rejoint le système international, où le champ de bataille s'est déplacé, quittant l'Europe pour aller vers le Moyen-Orient et vers l'Afrique sahélienne et centrale. Nous sommes dans un monde de communication tel que les principes classiques de territorialité sont bafoués et qu'en même temps le sanctuaire américain, loin de tous les champs de bataille, disparaît parce qu'aujourd'hui, avec l'heure de la communication, tout le monde est proche de tout le monde et tout le monde est vulnérable à tout le monde. Le grand problème, me semble-t-il, des États-Unis, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver leur voie face à ce monde profondément renouvelé. Alors, il y a eu peut-être trois temps. Un premier temps qui est le temps néoconservateur, où on considérait que tout ça n'avait pas d'importance et que, justement, avec la mondialisation, les États-Unis avaient une chance unique de pouvoir diffuser leurs valeurs. Il ne faut pas oublier que ce néoconservatisme, on le retrouvait bien sûr chez les Républicains, mais vous avez un certain nombre d'auteurs démocrates qui s'en accommodaient. Hein. John Hickenberry est un libéral, mais c'est un libéral qui tire vers le néoconservatisme avec son fameux ouvrage sur le Léviathan libéral. Vous avez ensuite eu cette réaction d'Obama qui était très intéressante et qu'on n'a pas suffisamment soulignée, puisque Obama est le premier des présidents des États-Unis à prendre conscience que la conception traditionnelle classique du leadership, avec le hard power, tout ça, ça ne peut plus fonctionner. Donc on sentait un retour libéral libre-échangiste, c'est-à-dire la revanche, on la prendra sur le terrain de l'économie mondiale et notre capacité de la diriger. Et maintenant, nous avons un troisième type de réaction nationaliste, c'est-à-dire bon, bah, la mondialisation, on la prend quand ça nous sert et on la laisse de côté quand ça ne nous sert pas. Et voilà, ce débat. Alors, je termine juste par une phrase en disant, l'échec de Trump, il a une illustration très claire, c'est que ce monsieur, quand il fait quelque chose, il n'est suivi par personne. Et ça, c'est nouveau dans l'histoire américaine. Quand Bush est parti pour l'Irak, il y a 40 États qui l'ont suivi, il ne faut quand même pas l'oublier. Quand M. Trump déplace l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, il y a le Guatemala qui le suit. Bah, bravo, quel succès, hein. On voit que l'influence américaine est à son zénith. Quand il sort de l'UNESCO, personne ne suit. Israël, bien sûr. Quand il décide de dénoncer la Convention des réfugiés, personne ne le suit. C'est quand même le signe que là, on touche le fond.
Alors, dans l'actualité toute récente, on voit tout de même les États-Unis, Pierre connaît ça, se joindre au Royaume-Uni, à la France, à l'Allemagne, pour condamner ce qui s'est passé avec les assassinats d'agents russes, notamment à Londres. Donc, peut-être que les choses sont un petit peu en train de changer. Pierre connaît ça.
Une minute en retour sur 91. L'écroulement de l'URSS a posé un paysage stratégique très très nouveau, puisque pour la première fois on n'avait plus d'ennemis. Et donc la décennie 90 a été utilisée par ce que les Américains appellent les strategists, c'est-à-dire toute cette communauté du renseignement, des affaires étrangères, des think tanks, etc., à essayer d'en trouver. Hein, donc ça a été le clash des civilisations, la fin de l'histoire, enfin bon. Ce qui est fantastique, c'est la fidélité avec laquelle on a suivi la pensée stratégique américaine. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le paysage 91 est nouveau à partir du moment où il paraît un monde utile et un monde inutile. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait l'URSS, on pouvait pas négliger une crise, sinon elle pouvait être gérée par l'autre. Bon. Après 91, c'est pas grave. Et donc, le pouvoir américain va se résumer à choisir les crises dans lesquelles il souhaite intervenir. Bon. Pour mémoire, je signale que la crise la plus meurtrière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la crise du Congo. 2,5 millions de morts, 13 000 enfants enlevés, esclaves sexuels, enfants soldats, etc. Comme vous le voyez, ça fait la une des journaux. Bon. Donc c'est la possibilité de choisir les crises. Là où on pouvait penser que l'Europe avait une indépendance de pensée, ma foi, ça a été un raté complet, excepté l'épisode de Chirac. Alors, aujourd'hui, il reste un extraordinaire pouvoir américain, qui est celui sur lequel moi j'insiste beaucoup, c'est ce soft power, c'est-à-dire cette capacité à structurer le débat stratégique. Et à chaque fois que les Américains posent une idée, on se demande, oulala, qu'est-ce qui se passe? Pensez que, par exemple, qu'un bouquin comme Le Clash des Civilisations a été traduit en 35 langues. C'était difficile d'éviter le débat, quand même, posé comme ça. Et donc, on est dans cette espèce de suivisme pour lequel l'Europe, et la France entre autres, n'ont pas réussi à poser une nouvelle stratégie. Avec M. Macron, ce sera peut-être un peu différent. Mais donc, ma question est surtout celle de ce qui reste aujourd'hui de ce pouvoir américain. C'est surtout cette force de conviction. Bon, évidemment, moi, j'ai travaillé sur le cinéma, donc je trouve que là, on est absolument dans vous savez, les deux balances commerciales les plus positives de l'exportation américaine, c'est l'armement et le cinéma. C'est-à-dire, c'est le hard et le soft power. Donc il reste les éléments de la puissance. Par contre, un des éléments de la puissance qui a consisté pour l'essentiel à militariser les crises, on peut pas dire que le succès soit franc. Échec en Afghanistan, échec en Irak. Donc on est dans une espèce d'état intermédiaire où un homme comme Trump croit qu'il suffit de réutiliser les anciens moyens. J'ai peur qu'il nous entraîne dans quelque chose d'un peu compliqué.
Vous écoutez RFI, Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, pour aller plus loin dans le débat et dans ce qui s'est dit jusqu'à présent, est-ce que on n'est pas en train d'assister aujourd'hui, alors bien sûr le système économique mondial est toujours organisé autour des États-Unis et du dollar, il y a la montée en puissance de la Chine, la rentrée de la Russie dans le jeu géopolitique, l'émergence ou la réémergence d'un certain nombre de puissances, est-ce qu'on peut parler d'un retour à la multipolarité?
Je me sens mal quand on sort ce terme. Alors, je suis obligé de réagir tout de suite, sinon
Bertrand
je vais
Badie.
Faire une attaque. Il n'y a jamais eu de multipolarité. La multipolarité, c'était cet espoir secret et doux des puissances moyennes au moment où le mur est tombé. C'est-à-dire, enfin, on va pouvoir jouer en première division. Enfin, on va pouvoir participer aux Jeux internationaux. Mais le problème, c'est que dans multipolarité, il y a pôle, et dans pôle, il y a capacité d'attraction. La capacité d'attraction, pour bien des raisons, sous la guerre froide, ça existait. C'est-à-dire que les deux pôles, non seulement les États-Unis, mais l'URSS, avaient une capacité d'attraction liée aux besoins de protection face à l'armement nucléaire de l'autre, liée à ce qu'on appelait et ce qu'on réappelle maintenant le campisme. Ils l'ont perdu. Je signalais tout à l'heure que le triomphe de M. Trump, c'est d'avoir rallié le Guatemala à sa politique en matière de conflit israélo-palestinien. Ce qui prouve que la faculté, ça c'est une grande nouveauté des relations internationales, la capacité attractive diminue autant que l'autonomie et le choix individuel des États, et notamment des États nouveaux, grimpent. Et la capacité des petits, c'est-à-dire de ceux qui sont issus de la décolonisation, qui apparemment n'ont pas beaucoup de moyens de puissance, leur capacité de jouer du patronage, c'est-à-dire d'un chantage permanent au patron, est devenue quelque chose de tout à fait remarquable. Qui dépend de l'autre? Monsieur Bachar el-Assad dépend-il plus de Monsieur Poutine ou Monsieur Poutine de Monsieur Bachar el-Assad? Je simplifie un peu le débat, mais c'est pour montrer que les choses ne se posent plus aujourd'hui comme elles se posaient autrefois. Alors, la France, qui a beaucoup milité pour la multipolarité, c'était le slogan de Jacques Chirac, elle a une capacité attractive sur qui? Sur le prince de Monaco? Je pense, oui, effectivement, sur quelques princes africains qui n'ont que leur dépendance à l'égard de l'ancienne métropole coloniale pour survivre sur leur trône, oui. Mais est-ce que ceci est suffisamment organisé pour que ça puisse restructurer l'espace mondial? Est-ce que véritablement il suffit, pour faire écho à ce que disait Pierre Conessa il y a un instant, que la France intervienne dans le Sahel pour que véritablement les peuples concernés se restructurent et se repensent en fonction de cette influence? Mais non, c'est fini ça, c'est fini. C'est pour ça que je suis moins optimiste que vous sur l'avenir du macronisme, enfin, n'anticipons point.
Laurence Nardon.
Oui, deux choses. La première, c'est que sur le suivisme stratégique de la France et de l'Europe vis-à-vis du débat stratégique américain, il y a en ce moment un débat de politique étrangère franco-français très intéressant sur la fin d'une école de politique étrangère française gaullo-mitterrandiste. C'est dans la revue Esprit, je le signale. C'est un débat que je trouve extrêmement intéressant. Il y a eu un article de Justin Weiss très intéressant avec des réponses un petit peu... Je vous y renvoie. Pour le reste, alors j'ai pas employé le terme de multipolarité pour ne pas susciter l'ire de Bertrand Badie, mais néanmoins, on pourrait aussi aujourd'hui commencer à lire le monde, et c'est très inquiétant, comme un monde fait de mondes juxtaposés, justement. Alors, il y aurait un monde chinois avec les pays qu'ils essayent d'aspirer, ou en tout cas de dominer dans leur région, un monde russe qui essaye de s'étendre vers l'Europe centrale, comme on le voit en Ukraine, un monde des démocraties occidentales qui reste très libéral et très attaché au système tel qu'il a été posé en 1945. La question, évidemment, c'est le rôle de l'Amérique de Trump. Alors, Trump est là jusqu'en 2020 ou en 2024, ça va être transitoire. Mais c'est vrai qu'on voit un président qui, dans sa vision de la politique étrangère, souhaite manifestement rompre avec la manière d'organiser le monde tel que les États-Unis eux-mêmes, et nous, Européens et d'autres encore, ont établi en 1945, ce qu'on appelle l'ordre international libéral. C'est une expression consacrée pour dire un monde dans lequel on respecte le droit international, les institutions internationales, la manière de discuter de manière diplomatique au sens propre du terme avant de passer à d'autres techniques plus martiales après. Trump, manifestement, n'est plus intéressé par ce système. J'espère que c'est transitoire du point de vue des États-Unis. Et du coup, nous aurions un monde occidental qui serait le garant de ce système démocratique et libéral par rapport à d'autres zones dans le monde qui fonctionneraient autrement, la montée des autoritarismes étant bien évidemment un phénomène que l'on voit partout aujourd'hui.
Alors Bertrand Badie, je sais que vous souhaitiez rajouter quelque chose et après ça je passe la parole à Pierre Connaissant.
Oui, très brièvement, j'approuve tout à fait l'idée de tenter de découper le monde en grandes régions. Et c'est vrai que celles-ci ont une réalité. Seulement, quand on regarde à la loupe ces grandes régions, c'est justement davantage la fragmentation, le désaccord, la diversité des choix qui apparaît. À l'intérieur de l'Europe, c'est très clair.
Au sein de chaque région.
L'Europe, c'est très clair. Et l'incapacité de produire une politique étrangère européenne tient justement à cet écart qui se construit, je dirais presque au quotidien, entre les différents États de l'Union européenne. Si vous regardez l'Asie orientale, la Chine y est prédominante, mais la Chine, je dirais, exerce une attraction sur qui en Asie orientale, même pas sur la Corée du Nord. Alors ne parlons pas des autres qui s'en méfient ou essayent de construire leur autonomie. Le monde arabe, impossible d'être plus divisé. Le conflit syrien aujourd'hui, ce qu'on oublie toujours, c'est que c'est un conflit pluripolaire, c'est-à-dire où il y a, dans la Ghouta, il y a trois organisations d'inspiration islamiste qui se font la guerre entre elles. C'est-à-dire, c'est bien la décomposition et la fragmentation qui l'emportent aujourd'hui sur l'attractivité.
Pierre connaît ça.
Oui, le terme de multipolarité a l'avantage de ces termes inventés à certains moments historiques et qui ensuite vont vivre leur propre vie. C'est vrai qu'il est difficile de penser qu'il y a eu à un moment quelconque un monde multipolaire, excepté la période de la guerre froide. Bon. Donc aujourd'hui, on a effectivement un certain nombre de puissances émergentes qui sont pour l'essentiel la Chine, l'Inde en partie, mais peut-être en seconde division, la Russie qui est en train de se reconstituer, enfin bref. Donc il y a une espèce de... On est en fait dans une espèce de multipagaille, quoi. C'est plutôt un peu comme ça. Alors j'adhère assez à l'idée de l'organisation régionale. Simplement, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que c'est que le monde occidental aujourd'hui ? Dans la mesure où les Américains n'ont plus les moyens d'action qu'ils avaient sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, le monde qui souffre le plus de la prédation américaine, c'est le monde occidental. Parce que c'est contre ceux-là qu'ils vont faire jouer l'extraterritorialité de la loi américaine, pour éventuellement sanctionner les entreprises qui signent avec l'Iran, qui vont éventuellement retenir sur la mondialisation libérale qu'ils nous ont vendue pendant des années. Et donc, on est dans une espèce de moment où l'Europe, ou en tout cas les autres pays occidentaux, pourraient penser à leurs propres intérêts, si vous voulez, plutôt que de continuer à raisonner comme s'il existait encore un monde occidental. Quand on pense que Trump va à Riyad pour annoncer que c'est les Iraniens qui sont responsables du terrorisme international, nous, Français, qui avons eu 290 morts et 800 blessés dans les rues par le salafisme prôné par l'Arabie Saoudite, il y a une espèce de petite schizophrénie, si vous voulez, à laquelle on n'est pas obligé d'adhérer. Donc, je reviens sur votre analyse régionale. Si vous voulez, paradoxalement, c'est à nous de penser aujourd'hui autrement la puissance du déclin américain. Deuxième remarque, il y a un échec des moyens du hard power américain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est quand même dans un monde... Le budget américain de la défense, c'est à peu près 600 milliards de dollars, à peu près. Bon, le deuxième, c'est la Chine à 200. Donc, ils sont effectivement en deuxième division. Et aujourd'hui, on a même dans les tribunes occidentales une espèce de dénonciation de l'effort militaire russe, qui, lui, est à 60 milliards de dollars. Vous dites, mais attendez, on est en train de parler de quel monde exactement? C'est-à-dire, on est en train de reprendre des argumentaires qui sont construits à Washington sans aucune distanciation critique. Et quand alors ils se mettent en accusation l'Iran comme puissance déstabilisatrice dans la région, quand vous regardez l'implantation des bases américaines au cours de l'Iran et que vous regardez la carte du monde à partir de l'Iran, vous vous dites, mais je serai chef d'État iranien, je pousse le programme nucléaire. Parce que c'est la seule manière aujourd'hui de ne pas être agressé par une puissance qui conventionnellement sera de toute façon supérieure à moi. Donc les termes du débat stratégique, pour peu qu'on sorte, si vous voulez, de cette école dominante, c'est quand même un monde dans lequel on crée l'instabilité. Et cette instabilité, elle est surtout venue des États-Unis avec une grande assistance de notre part.
Alors, instabilité, on a entendu cette semaine l'Arabie Saoudite dire aussi qu'elle entendait bien avoir son propre programme nucléaire si l'accord avec l'Iran se poursuivait. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Laurence Nardon, Pierre Connaissat et Bertrand Badie depuis Grenoble où se tient le festival de géopolitique. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis Grenoble, où se tient la 10e édition du Festival de géopolitique, dont le thème central cette année sont les États-Unis. Peut-on douter de la puissance américaine? Nous retrouvons nos invités. Laurence Nardon, chercheur responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, auteur d'un article paru dans la revue Études sous le titre « La sombre vision de Trump ». Pierre Conessa, spécialiste des questions stratégiques internationales et en particulier militaires, auteur de plusieurs ouvrages, dont un à paraître en mai prochain, Hollywood, armes de propagande massive chez Robert Laffont, et Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales, auteur également de nombreux ouvrages dont Nous ne sommes plus seuls au monde, paru aux éditions La Découverte. Cette semaine a été marquée par un certain nombre de changements dans l'administration américaine, à commencer par le remplacement de Rex Tillerson à la tête du département d'État, jugé trop en décalage avec le président Trump sur pratiquement tous les dossiers, Russie, Iran, Jérusalem, Corée du Nord. Le remplacement de M. Tillerson par Mike Pompeo, qui est le chef de la CIA. Est-ce qu'il faut y voir, le signe sans doute de la volonté du président de s'entourer de loyalistes plus désireux de refléter ses vues autour de l'America First? Qu'est-ce que cela, d'après vous, va changer dans la politique étrangère américaine? Laurence Nardon.
Moi, j'ai pensé que le départ de Rex Tillerson est finalement un peu un non-événement, parce que ce secrétaire d'État nommé en janvier 2017 était extrêmement invisible. Il n'avait pas du tout pris ses marques, que ce soit vis-à-vis de l'administration du département d'État ou du président. C'est-à-dire, vers le haut, vers le bas, il était totalement transparent. Et donc, son départ ne fait que confirmer son inefficacité depuis le début. Et l'arrivée de Mike Pompeo à sa place confirme ce que je pense, c'est-à-dire que finalement le président, la politique étrangère de Donald Trump est d'une grande cohérence depuis le début. Elle est nationaliste, elle est anti-internationaliste libérale, et il fait venir quelqu'un qui a ses vues au département d'État. Donc finalement, c'est une confirmation et une mise en cohérence.
Ce qui peut laisser aussi envisager une évolution vers plus d'assurance et de détermination de la politique de Trump, Bertrand Badi.
Oui, il y a quand même deux choses qui sont frappantes. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par Laurence Nardon. La première, c'est qu'on en est, je crois, à la 21e purge en un petit peu plus d'un an, ce qui quand même est une première.
Au sein de l'ensemble de l'administration.
Oui, d'accord. Enfin, vu le régime présidentiel américain, le fait qu'il y ait 21 entourages du président qui aient été débarqués est quand même un signe qui marquera les historiens. Le deuxième élément, c'est qu'on dit beaucoup, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il semblerait que les commentaires convergent vers l'idée que la posture à adopter vis-à-vis de l'Iran serait l'un des facteurs déterminants de cette brouille et de ce renvoi. Si c'est vrai, c'est extrêmement inquiétant, parce que l'événement le plus remarquable, je crois, dans cette transformation de la politique internationale depuis l'élection de Donald Trump, c'est cet alignement des planètes tout à fait exceptionnel et qui n'a pas été assez commenté, États-Unis, Israël, Arabie Saoudite. Ça, c'est quand même quelque chose, on aurait dit ça il y a 4-5 ans, on aurait été pris pour un rêveur ou un auteur de cauchemar, je ne sais quoi, mais c'est, à mon sens, doublement important. C'est important d'abord parce que ça vient de manière spectaculaire rompre ce qui pouvait rester d'unité du camp arabe face à Israël. Mais c'est important parce que ça, je dirais, re-géopolitise le Moyen-Orient. C'est-à-dire que le Moyen-Orient s'était éloigné du temps de la guerre froide en donnant les premiers rôles à des organisations qui n'étaient pas des États. Hein, qu'il s'agisse du Hezbollah, qu'il s'agisse de Daesh, d'Al-Qaïda et de tous ces réseaux que nous connaissons bien. Ce qui est en train de se passer, c'est une reprise en main par le jeu d'alliance des États, une recomposition donc de ce qui est quand même le champ de bataille le plus grave du monde autour d'une alliance qui est une alliance de puissance. C'est-à-dire, faut pas oublier qu'Israël, c'est la seule puissance nucléaire de la région. L'Arabie Saoudite veut peut-être équilibrer l'Iran si elle a son arme nucléaire, mais c'est oublié que l'Israël l'a depuis bien longtemps. Et que, effectivement, cette alliance américano-israélo saoudienne peut reprendre la main au Moyen-Orient, peut reprendre la main. C'est-à-dire dans cette situation en même temps de statu quo et de décomposition, hein, bizarrement les deux vont ensemble, cette alliance peut reprendre la main, redéfinir la donne. Et si ça redéfinit la donne, ça se fera de manière extrêmement violente et extraordinairement dangereuse. Et une confrontation interétatique, ce qu'on n'avait pas vu quand même depuis un certain temps au Moyen-Orient, alors qu'elle était intra-étatique depuis au moins 40 ans, c'est probablement un événement très grave, très important, et qui va conduire à positionner, bien sûr, la Russie, bien sûr, les autres puissances régionales, la Turquie, l'Iran, et aussi, très probablement, l'Union européenne, qui demande surtout, qui fait toutes les prières possibles pour qu'elle n'ait pas à se positionner. Là, on est quand même face à un défi.
Pierre Connaissard, risque de confrontation interétatique. Après ça, j'aimerais qu'on parle rapidement de la Corée du Nord. Enfin, pas rapidement, mais est-ce que ça va contribuer à sortir les États-Unis de leur isolement?
Juste une petite remarque sur les purges staliniennes là, qui viennent de se passer. Je remarque que Trump n'a absolument pas touché à son conseil évangélique. Hein. Il a 25 prédicateurs néo-évangéliques autour de lui. C'est-à-dire qu'il moralise sa politique avec des gens qui sont là pratiquement pour faire des déclarations de politique internationale sur la Corée du Nord, sur le monde arabe, sur l'islam, etc., qui sont le pendant, si vous voulez, du radicalisme religieux des musulmans. Hein. Les évangéliques américains sont une puissance, sont très bien organisés, ils sont plusieurs fois accédés au pouvoir depuis Reagan, Bush, etc.
Bon. Puissance, et ce sont eux qui sont à l'origine de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump, avec
oui,
le transfert à venir de l'ambassade.
Oui, mais comme ils ont une idée qu'ils n'ont pas développée en totalité, il faut quand même penser qu'en lisant la Bible à leur manière, une fois que le grand Israël sera constitué, donc le Messie revient, mais tous les Juifs sont convertis. Donc la phrase finale, si vous voulez, en général, est mise de côté. Mais ils sont effectivement ceux qui ont poussé Trump à reconnaître. Alors sur le conflit du Proche-Orient, je crois que Bertrand Badie a raison, il y a reconstitution d'un axe tout à fait différent, dans lequel effectivement, aujourd'hui vous avez une collusion entre l'Arabie Saoudite et Israël. Vous savez, l'Arabie Saoudite est le seul pays de la région qui n'a jamais fait la guerre à Israël. Quand on voit le golfe d'Aqaba, la frontière est à peu près une vingtaine de kilomètres. Une fois, ils ont envoyé une brigade en 67, mais elle est arrivée trop tard, c'était la guerre des six jours. Donc il n'y a pas eu véritablement de conflictualité. Donc il y a une espèce de virginité de leur relation. Et effectivement, la seule puissance stable et pour laquelle on peut s'appuyer pour éviter que la pagaille du Moyen-Orient se répande, c'est effectivement d'avoir des collaborations avec Israël, ce que Mohamed Ben Salman, à mon avis, est en train de préparer. Il ne va pas sauver Raif Badawi, mais il va probablement aller voir les Israéliens. La dernière remarque, mais ça c'est pour nous Européens, c'est que s'il y a un conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est un conflit qui doit rester régional et il ne faut surtout pas le mondialiser. C'est-à-dire que notre habitude de nous mêler des conflits des autres est un tropisme hérité de l'organisation de l'ONU en 1945, sur lequel il faut absolument revenir en arrière. Le conflit doit rester local. Cela dit, sur le nucléaire saoudien, je suis un peu dubitatif, parce qu'il faudrait mettre les Saoudiens au travail. Or, je pense qu'ils achèteront plutôt la bombe pakistanaise. Ça coûtera moins cher, ils auront les techniciens, ils auront le savoir-faire.
Alors, la Corée du Nord, est-ce que Trump sera le premier président de l'ère contemporaine à serrer la main du leader nord-coréen, Laurence Nardon?
Pourquoi pas, il est tellement transgressif, ça pourrait se produire. Mais j'aurais voulu, excusez-moi, répondre à une autre question à propos des évangéliques autour de Trump. Il y a quelque chose que je trouve également assez intéressant sur son idéologie, la manière dont il travaille, etc. On a beaucoup pensé que le départ de Steve Bannon, donc qui est un idéologue plutôt d'extrême droite, pas très religieux, mais vraiment d'extrême droite populiste derrière Trump, qui a été nommé à tête de sa campagne à l'été 2016, puis s'est fait débarquer de la Maison Blanche à l'été 2017, était resté en bon terme avec le président. Et puis ils sont brouillés depuis janvier, quand ce livre Fire and Fury est sorti, et depuis ils ne se parlent plus. Et au mois de janvier, on pouvait se demander innocemment si le président Trump, du coup, allait revenir en arrière sur ses positions populistes, notamment le protectionnisme, et on est assez stupéfait de voir que pas du tout, et du coup il reste très populiste, et toutes les décisions qu'il a prises ces dernières semaines le montrent, et notamment évidemment l'imposition de barrières douanières sur l'acier et l'aluminium, c'est le béaba du populisme de Bannon, donc il reste influent malgré la brouille avec le président, et ça a un impact sur la politique étrangère comme on le voit.
La Corée du Nord, Bertrand Badie.
Alors, la Corée du Nord est en passe de devenir l'une des très nombreuses et peut-être la plus remarquable défaites de Trump. Parce que il y a une équation très simple avec la Corée du Nord, très très simple. C'est cette volonté qui est partagée par beaucoup d'États, notamment l'Iran, d'être reconnu sur la scène internationale. C'est le syndrome de l'égal à égal. C'est ce que Pierre Conesa appelait tout à l'heure jouer en deuxième division et monter en première division. S'il y a un sommet, il est monté en première division. Il joue même pas les barrages. Il monte directement en première division. Il y avait deux lignes depuis même Kim Il-sung, puis Kim Jong-il, puis Kim Jong-un. Il y a toujours eu cette idée qu'on soit reconnu et que l'on ne nous mette pas dehors. Et effectivement, pour qu'on nous mette pas dehors, qu'on ait l'arme nucléaire. Donc si on est reconnu, c'est certainement pas non plus pour abandonner du même coup l'arme nucléaire. Donc on va tenter les deux, et c'est ce qui est en passe de gagner. Monsieur Trump a été, et ça, du point de vue de la politique internationale, c'est intéressant, prisonnier des excès de son langage. C'est-à-dire, lorsque la première superpuissance du monde dit « on va les écraser, on va les ratatiner, il n'y en aura plus un debout », etc., ou il le fait, ce qui était inenvisageable, ou s'il ne le fait pas, il perd. Vous voyez ? Comme quoi, il faut toujours tourner sa langue cette fois avant de parler. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire.
Pierre Conesa, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Après ça, on va passer aux questions du public.
La crise coréenne traduit un nouvel équilibre stratégique qui avait déjà pris forme avec la convention avec l'Iran. Quand en 91, les Occidentaux se retrouvent en possession de la suprématie conventionnelle absolue et de la suprématie nucléaire absolue, tous les pays qui ne respectent pas cet ordre international n'ont qu'une seule possibilité de se défendre, puisqu'ils ne peuvent pas se constituer une armée conventionnelle qui coûte trop cher, puis en général les fournisseurs sont occidentaux, c'est donc de se doter du nucléaire. Bon. C'est le scénario iranien qui finalement s'est concrétisé par un accord qui reconnaît à l'Iran d'être un pays du seuil. C'est-à-dire, on reconnaît à l'Iran qu'il a les capacités, si véritablement la crise s'accentue, de reprendre son programme là où on l'a arrêté, c'est-à-dire des centrifugeuses qu'on a arrêtées mais qu'on n'a pas démantelées, etc., etc. Et ça, c'est la nouvelle configuration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Corée du Nord, maintenant, on l'a laissé aller jusqu'à la bombe. Donc, vous voyez quelle magnifique erreur stratégique d'avoir tout focalisé sur l'Iran au lieu de le faire sur la Corée du Nord. Et donc, parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est Trump qui est obligé de venir à Canossa. C'est lui qui est obligé de venir discuter avec Kim Jong-un, qui est un personnage qui est encore plus imprévisible que Trump. Parce qu'un fils de dictateur, c'est beaucoup plus inquiétant qu'un dictateur, si vous voulez. On lui a toujours dit oui, tout petit.
Alors nous sommes à Grenoble, je le disais, dans le cadre du festival, la 10e édition du festival de géopolitique. Nous sommes en public, dans un amphithéâtre de l'école de management. Des questions, monsieur ?
Pierre Garlin, de Paris-Nanterre. Je voudrais revenir sur une question qui a été posée, mais qui n'a pas trouvé de réponse. Alors, je vais donner un peu de contexte. Arbatov avait dit, responsable américain, que la fin de la guerre froide, c'était priver les États-Unis d'un ennemi. La question qui a été posée, c'était sur la tentative d'assassinat sur l'agent double en Grande-Bretagne. Je voudrais savoir si dans la multipagaille dont vous avez parlé, on peut, en tant que citoyen, être sûr que cette tentative d'assassinat est imputable à la Russie, et quels éléments de preuve on a en dehors de ce qu'ont déclaré les services secrets des trois pays.
Pierre connaît ça.
La phrase d'Arbatov, c'était « je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis », ce qui était extraordinaire comme analyse. Hein. Bon. Alors, sur la question des services de renseignement, si vous voulez, on est dans une situation un peu complexe. Parce que pendant la guerre froide, les espions ont un statut. Quand on assassine quelqu'un, en général, c'est d'une manière qui laisse pas de traces, mais l'autre a bien compris que vous avez assassiné un de ses agents, et donc il vous fait comprendre qu'il sait ce qu'il sait. Bon. Tout ça, c'est pas public. Donc là, ce qui est étonnant, c'est que par deux fois, des anciens collaborateurs ou agents du KGB ont été assassinés de manière très visible. Donc ce qui me trouble un peu, c'est deux choses. C'est d'abord le fait de cette nouvelle manière de faire comprendre que des anciens du KGB, c'est pas des agents américains ni anglais qu'on assassine, c'est des anciens du KGB. De faire comprendre que de toute façon, même si vous êtes passé de l'autre côté, vous devez rester fidèle à une certaine forme de discrétion. Et donc de temps en temps, une piqûre de rappel sur... Apparemment, il n'y a pas d'actualité qui justifiait cet assassinat. Et la deuxième chose, c'est que visiblement, le FSB a beaucoup collaboré avec les mafieux russes. Et ça ressemble beaucoup plus à un crime de mafieux qu'à un crime de service secret. C'est-à-dire, peut-être qu'on a sous-traité. Hein. Mais assassiner de cette manière-là, si vous voulez, ça rappelle la Ndrangheta qui assassine 6 personnes dans les rues de Munich ou à la sortie d'une pizzeria. Vous voyez, c'est de l'assassinat public. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas répondre, mais moi j'ai un alibi. Hein.
Une autre question, monsieur, avec le micro.
Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Gosset, je suis retraité. Il me semble que c'est très paradoxal de parler de la puissance militaire américaine qui perd pratiquement toutes les guerres, à quelques exceptions près, qu'elle a menées depuis la guerre de Corée. C'est une grande puissance, c'est peut-être la plus grande puissance, mais elle perd toutes ses guerres. Est-ce que vous pouvez commenter cela ?
Qui souhaite répondre ? Bertrand
Bédy. Oui, je crois que c'est quand même effectivement la marque essentielle. J'avais commis il y a quelques années un livre qui s'appelait « L'impuissance de la puissance », dans lequel effectivement j'expliquais ce genre de choses. La Corée d'abord est plus un match nul qu'une victoire, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas les États-Unis, c'est une coalition multilatérale. Il y a une guerre que les États-Unis ont gagnée, il faut leur reconnaître cette puissance. C'est face à Grenade en 1983, où ils ont quand même réussi à battre une armée de 89 hommes. Et il faut le faire, il faut le faire, n'est-ce pas ? Bon. Mais ce que vous dites, ça interroge. Et je crois que ça interroge plus la nouvelle nature des guerres et des conflits que la puissance des États-Unis en soi. C'est-à-dire que la grande erreur, notamment des vieilles puissances en général, c'est de se persuader que rien n'a changé. Et que, par exemple, face à Daesh, une nouvelle bataille de la Marne suffira pour le vaincre. Rappelez-vous, le président de la République avait même annoncé pour la mi-février la fin de Daesh, ce qui était presque de l'ordre de l'horoscope. Alors, le 15 février, Daesh va tomber, etc., parce qu'une action militaire menée en Mésopotamie va aboutir à sa défaite. C'est plus comme ça. Et effectivement, ça a commencé par les guerres de décolonisation, où les plus petits gagnaient sur les plus gros, et ça s'est prolongé à travers une chose qui est tout à fait remarquable, c'est que même si vous gagnez sur le terrain, vous perdez politiquement. Et c'est ça l'autre aspect. Regardez l'offensive du Tet. Les Américains l'ont gagné en février 1968. Et c'est ce qui a retourné l'opinion publique américaine contre la guerre du Vietnam et ce qui a conduit les États-Unis finalement à se désengager. Ce qui est quand même assez paradoxal. Ça veut dire que mesurer le monde à l'aune de la puissance militaire, maintenant, est une erreur et qu'on renouvelle à chaque conflit, notamment dans l'analyse que l'on fait du conflit syrien.
Pierre connaît ça.
Juste une remarque. Non, il y a quand même la démonstration de la guerre du Golfe. Celle-là était très importante parce que c'était la première mise en œuvre de ce qu'on a appelé la révolution dans les affaires militaires. Et c'est vrai qu'en quelques jours, la puissance militaire irakienne avait été détruite. Et donc, on a eu le sentiment tout à coup qu'il y avait une arme absolue.
Et c'était une coalition, c'était pas les États-Unis.
C'était une coalition, mais enfin bon.
C'était très différent.
Non, non, c'est vrai. Mais si je parle sur le plan de la stricte puissance militaire, j'insiste là-dessus parce que ça a tout à coup donné le sentiment qu'on avait trouvé la clé absolue, si vous voulez. C'est exactement la ligne Maginot de notre époque à nous. Et en fait, toutes les guerres qui ont suivi sont toutes des guerres asymétriques qui ont justement abouti à démontrer que cette puissance militaire était inutile quand on refusait les règles du combat telles qu'ils avaient été définies. Et c'est ça la leçon extraordinaire parce qu'on continue à augmenter les budgets de défense sans se demander si finalement les moyens de cette puissance militaire sont des moyens qui sont adaptés au nouveau contexte. Voilà.
Alors, le temps passe malheureusement très vite. J'avais cette citation de Charles Cogan, qui a été responsable de la CIA à Paris entre 1984 et 1989, qui considère que pour les États-Unis, l'état du monde envisageable en 2030 suggère un défi qui ne fait aucun doute. Les États-Unis, dit-il, vont devoir apprendre à devenir un pays comme les autres. En guise de conclusion sur cette émission sur la puissance américaine, Laurence Nardon.
Ça va être difficile pour certains Américains, notamment ceux qui donc sont amoureux de la puissance de leur pays, ceux aussi qui pensent que leur pays est exceptionnel, l'exceptionnalisme américain, qu'il a une mission morale dans le monde. Et si on est un pays comme les autres, on n'est plus en position de leur dire le bien par rapport au mal. Et en même temps, pour quelqu'un comme Trump, un pays comme les autres, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que il veut rester le meilleur. Donc ça va être difficile pour lui. Et en même temps, il ne veut pas se donner les moyens, clairement, d'être un pays qui serait le leader du monde. Ça ne l'intéresse pas. Il y a ce côté jacksonien de sa politique étrangère qui fait qu'il voudrait que les États-Unis restent chez eux bien tranquilles, mais puissent intervenir résolument et assez violemment, même lorsque la sécurité des citoyens américains est en cause. Donc c'est un mix qui a sa cohérence, mais qui reste quand même assez compliqué à mettre en œuvre, je trouve.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Laurence Nardon, chercheur responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Je cite votre dernier article paru dans la revue Études sous le titre « La sombre vision de Trump ». Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales, auteur de plusieurs ouvrages, voire nombreux ouvrages, dont « Nous ne sommes plus seuls au monde » aux éditions La Découverte, et Pierre Conessa, spécialiste des questions stratégiques internationale et en particulier militaire, auteur également de plusieurs ouvrages dont l'un à paraître en mai prochain, Hollywood, armes de propagande massive chez Robert Laffont. Je rappelle que Géopolitique était enregistré à Grenoble à l'occasion de la 10e édition du Festival de Géopolitique. Édition signée Marie-France Chatin, Bertrand Éclair à Grenoble, à Paris, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique sera consacré à l'action humanitaire.